23 décembre 1980, minuit 33. L'Airbus 5403 Istanbul-Paris décrocha. Un plongeon de près de 1000 mètres en moins de 10 secondes, presque à la verticale, avant de se stabiliser à nouveau. La plupart des passagers dormaient. Ils se réveillèrent brusquement, avec la sensation terrifiante de s'être assoupis sur le fauteuil d'un manège de foire. Ce furent les hurlements qui brisèrent net le fragile sommeil d'Isel, pas les soubresauts de l'avion. Les bourrasques, les trous d'air, elle en avait l'habitude, depuis presque 3 ans qu'elle enchaînait les tours du monde pour Turkish Airlines. C'était son heure de pause. Elle dormait depuis moins de 20 minutes. Elle avait à peine ouvert les yeux que sa collègue de garde, Mélia, une vieille, penchait déjà vers elle son décolleté boudiné. « Isel ? Isel, fonce, c'est chaud. C'est la tempête dehors, il paraît. Zéro visibilité, d'après le commandant. Tu prends ton aller ?» Isel afficha l'air lassé de l'hôtesse expérimentée qui ne panique pas pour si peu. Elle se leva de son siège, réajusta son tailleur, tira un peu sur sa jupe, admira un instant le reflet de son joli corps de poupée turque dans l'écran éteint devant elle, et avança vers l'allée de droite. Les passagers réveillés ne hurlaient plus, mais ouvraient des yeux plus étonnés qu'inquiets. L'avion continuait de tanguer. Isel entreprit de se pencher avec calme sur chacun d'entre eux. « Tout va bien, aucun souci. On traverse simplement une tempête de neige au-dessus du Jura. On sera à Paris dans moins d'1 heure. » Le sourire d'Isel n'était pas forcé. Son esprit vagabondait déjà vers Paris. Elle devait y rester 3 jours, jusqu'à Noël. Elle était excitée comme une gamine à l'idée de jouer les stambouliottes libérées dans la capitale française. Ses attentions rassurantes se posèrent successivement sur un garçon de 10 ans qui s'accrochait à la main de sa grand-mère, sur un jeune cadre à la chemise froissée qu'elle aurait volontiers recroisé le lendemain sur les Champs-Élysées, sur une femme turque dont le voile, sans doute mal ajusté à cause du réveil brutal, lui barrait la moitié des yeux, sur un vieil homme recroquevillé sur lui-même, les mains coincées entre ses genoux, qui lui jetait un regard implorant. « Tout va bien, je vous assure. » Isel progressait calmement dans l'allée quand l'Airbus pencha à nouveau sur le côté. Quelques cris fusèrent. Un jeune type, assis sur la droite d'Isel, qui tenait à 2 mains un baladeur cassette, cria d'un air faussement joué. « C'est pour quand, le looping ?» Quelques rires timides lui répondirent, immédiatement couverts par les cris d'un nourrisson. L'enfant était allongé dans un cosy, juste devant Isel, à quelques mètres. Le regard de l'hôtesse de l'air se posa sur la petite fille âgée à peine de quelques mois. Elle portait une robe blanche à fleurs orange qui dépassait d'un pull de laine écrue en jacquard. « Non, madame, » intervint Isel. « Non. » La mère, assise juste à côté, détachait sa ceinture pour se pencher vers sa fille. « Non, madame, » insista Isel. « Vous devez rester attachée. C'est impératif. C'est... » La mère ne se donna même pas la peine de se retourner, encore moins de répondre à l'hôtesse. Ses longs cheveux dénoués tombaient dans le cosy. Le bébé hurla, plus fort encore. Isel hésita sur la conduite à tenir, se rapprocha. L'avion décrocha encore. 3 secondes, 1000 nouveaux mètres, peut-être. De brefs cris explosèrent, mais la plupart des passagers gardèrent le silence. Muets. Conscient que le mouvement de l'avion n'était plus simplement provoqué par de simples rafales hivernales. Sous l'effet de la secousse, Isel tomba sur le côté. Son coude enfonça le baladeur cassette dans la poitrine de son propriétaire, sur sa droite, lui coupant le souffle. Elle ne prit même pas le temps de s'excuser, se redressa. Juste devant elle, la fillette de 3 mois pleurait toujours. Sa mère se penchait à nouveau vers elle, commençait à détacher la ceinture de sécurité de l'enfant. « Non, madame, non !» Isel pesta. Elle tira machinalement sa jupe relevée sur son bas filet. Quelle galère! Elle les aurait bien méritées, ces 3 jours et 2 nuits de plaisir à Paris. Tout alla alors très vite. Un bref instant, Isel crut entendre, en écho, un autre cri de nourrisson, quelque part dans l'avion, un peu plus loin sur sa gauche. La main troublée du type au baladeur frôla le nylon gris de ses cuisses. Le vieil homme turc avait passé une main autour de l'épaule de la femme voilée et levé l'autre vers Isel, suppliante. La mère, juste devant elle, debout, tendait les bras pour serrer sa fille libérée des sangles de son cosy. Ce furent les dernières images avant la collision, avant que l'Airbus ne défie la montagne. Le choc propulsa Isel 10 mètres plus loin, contre l'issue de secours. Ses deux adorables petites jambes gainées de noir se tordirent comme les membres d'une poupée de plastique entre les mains d'une fillette sadique. Sa mince poitrine s'écrasa contre le fer blanc. Sa tempe gauche explosa contre l'angle de la portière. Isel fut tuée sur le coup. En cela, elle fut la plus chanceuse. Elle ne vit pas les lumières s'éteindre. Elle ne vit pas l'avion se tordre comme une vulgaire canette de soda au contact d'une forêt d'arbres qui semblait un à un se sacrifier pour ralentir la course folle de l'Airbus. Quand tout s'arrêta, enfin, elle ne sentit pas l'odeur de kérosène se répandre. Elle ne ressentit aucune douleur lorsque l'explosion déchiqueta son corps, ainsi que ceux des 23 passagers les plus proches. Elle ne hurla pas lorsque les flammes envahirent l'habitacle, piégeant les 145 survivants. 18 ans plus tard. Chapitre 1. 29 septembre 1998, 23h40.
Vous savez tout, désormais.
Crédule grand-duc leva son stylo et son regard se perdit juste en face, dans l'eau claire de l'immense vivarium. Ses yeux suivirent quelques instants le vol désespéré de la libellule Harlequin qui lui avait coûté près de 2500 francs moins de 3 semaines auparavant. Une espèce rare, l'une des plus grandes au monde par la taille. Réplique exacte de son ancêtre préhistorique. La longue libellule s'agitait d'une vitre à l'autre, au milieu d'un essaim frénétique de plusieurs dizaines d'autres libellules. Prisonnières. Piégées. Toutes sentaient qu'elles étaient en train de mourir. Le stylo se posa à nouveau sur la feuille. La main de Crédule Grand-Duc s'agita, nerveuse.
J'ai recensé dans ce cahier tous les indices, toutes les pistes. Toutes les hypothèses. 18 ans d'enquête. Tout est consigné dans cette centaine de pages. Si vous les avez lues avec attention, vous en savez maintenant autant que moi. Peut-être serez-vous plus perspicace. Peut-être suivrez-vous une direction que j'ai négligée. Peut-être trouverez-vous la clé, s'il en existe une. Peut-être. Pourquoi pas? Pour moi, c'est terminé.
Le stylo se leva, trembla quelques millimètres au-dessus du papier. Les yeux bleus de Crédule Grand-Duc se perdirent une nouvelle fois dans le vert lisse du vivarium, puis glissèrent vers la cheminée, où de longues flammes dévoraient un enchevêtrement de journaux, de papiers et de boîtes archives cartonnées, avant de se poser une dernière fois sur le cahier. Le stylo glissa.
Dire que je n'ai ni regrets ni remords serait exagéré, mais... j'ai fait du mieux que je pouvais.
Crédule Grand-Duc fixa de longues secondes cette ultime ligne, puis referma lentement le cahier vert pâle. « J'ai fait du mieux que je pouvais », se répéta-t-il, finalement satisfait de sa conclusion. 23h43. Il rangea le stylo dans un pot devant lui, attrapa sur la droite de son bureau un post-it jaune qu'il colla sur la couverture du cahier. Sa main se dirigea à nouveau vers le pot de crayon. Ses doigts saisirent un marqueur et il écrivit sur le morceau de papier, d'un large trait, « Pour Lily ». Il repoussa le cahier vers le bord du bureau et se leva. Le regard de Grand-Duc s'attarda quelques instants sur le bureau. Une plaque de cuivre y brillait. Grand-Duc lut, avec ironie, « Crédule Grand-Duc, détective privé ». Il afficha un sourire désabusé. Tout le monde l'appelait Grand-Duc depuis longtemps, maintenant. Plus personne n'utilisait son prénom ridicule. Plus personne, à part peut-être Émilie et Marc Vitral. Et encore, c'était avant, lorsqu'ils étaient plus jeunes. Il y avait une éternité de cela. Grand-Duc marcha vers la cuisine. Il jeta un dernier coup d'œil vers l'évier d'inox gris, le carrelage à dalles octogonales blanches, les placards de bois clair fermés. Chaque élément était parfaitement en ordre, astiqué, rangé. Toute trace de vie antérieure avait été méticuleusement essuyée,
comme dans une maison de location que l'on doit rendre à son propriétaire. Grand-Duc était méticuleux, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Il le savait. Cela expliquait beaucoup de choses. Tout, en fait.